Bonsoir à chacun et à chacune. Quelle grâce de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Je vous invite, avant de faire une prédication, je pense dimanche, à moins que j'ai un autre sujet sur le cœur, sur le ciel, puisqu'on avait parlé surtout sur l'enfer. Nous verrons dimanche certainement une prédication sur le ciel, parce que c'est important que nous en parlions. Mais ce soir, nous allons continuer sur ce sujet quand même qui est important. J'ai donné comme titre à ma prédication « La vie après la mort ». D'abord, nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 14 cette fameuse question que Thomas pose à Jésus pour savoir comment un homme peut aller au ciel. La question de Thomas, c'était ça, mais comment un homme peut-il aller au ciel? Et c'est vrai que c'est une question, nous on le sait, si on est converti depuis longtemps, c'est facile pour nous. Mais il y a beaucoup de gens qui doivent se poser encore la question, mais comment c'est possible qu'un homme puisse aller d'ici au ciel? Jean chapitre 14, verset 1er, c'est dans un contexte d'une grande espérance pour les chrétiens que cette question a été posée. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que ça soit aussi une parole pour quelqu'un ce soir. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est là que ça fait naître cette question dans le cœur de Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un des versets très importants dans la parole de Dieu. La deuxième lecture, nous allons la faire dans l'évangile de Luc au chapitre 16, au verset 19. Cette histoire du riche et du pauvre, Lazare. Quelle histoire extraordinaire. Béni soit le Seigneur qu'il ait pris le temps de nous la raconter. Vous savez, nous on lit la Bible, on est habitué, mais imaginez-vous, cette histoire pourrait ne pas être dans la Bible. Et Dieu a voulu qu'elle y soit pour que la parole soit parfaite. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. » D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. » Cette histoire que Jésus a racontée nous rappelle une fois de plus une grande vérité du prophète Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Voilà ce que nous rappellent les deux lectures que nous venons de faire. Cette injonction de Dieu dans le prophète Amos est au singulier. Il parle au pluriel tout le long du chapitre et tout d'un coup, il s'adresse à l'individu pour que nous comprenions bien que la vie éternelle, c'est une question personnel. Et dans ce texte que nous connaissons peut-être si bien, nous allons le revoir ce soir parce que quelqu'un a besoin certainement d'entendre cette exhortation pour bien régler le problème de son éternité. C'est sérieux. Ce texte est rempli de vérités spirituelles. Certains vont dire c'est une image parce que vous savez, souvent on l'entend, oui mais c'est qu'une image. C'est qu'une image. Mais je peux vous dire, et alors ? Une image, c'est une chose, mais la réalité, c'est souvent plus important qu'une image. Si je vous mets un poster d'un lion, là, photographié sur l'écran, c'est une image. Si dans la rue, en sortant, vous rencontrez le lion qui a été photographié, la réalité est souvent beaucoup plus grave que l'image. Alors, si c'est une image, tenez-vous bien en tête que la réalité est toujours plus importante que l'image. Parce que souvent, on utilise le fait que c'est une image pour, vous savez, un peu banaliser la chose. C'est important. Quelle différence entre ces deux hommes ? Il y en a un qui est riche, hein, et il vit, il nous montre un homme qui vit comme s'il n'avait pas d'âme, justement. On voit un homme qui menait joyeuse et brillante vie. Il est l'image, justement, de tous ceux qui mènent une vie terrestre sans s'occuper de leur éternité. Il y a des gens, c'est vrai, quand on les voit vivre, on a l'impression qu'ils vont vivre 300-400 ans sur la terre. C'est vrai, je vous assure. Il y a des gens, ils font des projets, ils sont là, quel que soit leur âge, on a l'impression qu'ils ne vont jamais mourir. Ils font partie de ces gens qui ont rayé le mot « éternité » de leur vocabulaire. Je ne sais pas si c'est un mot que vous aimez utiliser, le mot « éternel », le mot « éternité », il y a des gens que ce mot dérange, croyez-moi. Le deuxième, nous l'avons lu, c'est un pauvre. On ne connaît pas grand-chose de cet homme, seulement son prénom, Lazare, ce qui veut dire « Dieu est mon secours ». Lui, sa richesse, il ne l'avait pas dans le portefeuille, lui, il était riche dans son cœur. Vous le croyez ? Quand on s'appelle Lazare, ce qui signifie « Dieu est mon secours », en fin de compte, c'était lui le plus riche. Vous ne croyez pas ? Qui c'était le plus riche ? Hein, c'était lui. Il faut quand même préciser que la richesse, ce n'est pas un vice. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche que ce n'est pas bien. Et la pauvreté n'est pas également une vertu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il est vertueux. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Dans la parole de Dieu, vous ne trouverez jamais cette pensée. C'est que l'emploi de la richesse est quelque chose de mauvais. Non, c'est l'amour de l'argent qui est quelque chose de mauvais. Dieu n'a rien contre les riches. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Le pauvre et le riche se rencontrent, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. » Le problème, c'est l'argent, c'est l'amour de l'argent. La Bible est claire, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. L'argent, il y a des gens qui sont très riches, ça n'a jamais été un obstacle pour rencontrer Dieu, pour servir Dieu, etc. Dans ce texte, nous voyons un homme qui est bien habillé, il est habillé somptueusement, l'autre il était couvert de haillons, l'autre il faisait la fête. On voit ces deux extrêmes. Vous voyez, un il a à manger en abondance, l'autre il manque de nourriture. L'un il est en bonne santé, enfin, apparemment, parce qu'on va voir que ça va mal quand même pas se passer pour lui. Un est en bonne santé, apparemment, et l'autre est couvert d'ulcères. Vous voyez cette histoire, Jésus l'a présentée d'une manière justement très imagée, pour nous faire comprendre certaines choses. Cet homme, on n'a pas l'impression qu'il voulait rendre service à son prochain. Cet homme, il était avare, pas pour lui. Ça aussi, l'avarice, c'est un problème, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont avares pour les autres et pour eux. Mais là, il est avare, mais pas pour lui. Parce qu'il menait joyeuse et brillante vie. Et il y a des gens comme ça. L'argent qu'ils ont, ils l'utilisent que pour eux. Et là, on voit quand même que c'est quand même un petit problème. Vous avez vu ce que le Seigneur y fait remarquer dans cette parabole ? Il y a quelque chose de bizarre dans cette parabole. Le Seigneur fait remarquer, vous avez vu que les chiens venaient lécher ses ulcères. Ça pourrait ne pas être mis dans la parabole, non ? Toute cette parabole pourrait très bien avoir été présentée sans qu'on nous parle de ces chiens qui venaient lécher les ulcères de ce pauvre homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous comprenez bien qu'il y a une signification. Ça voudrait dire que les chiens avait en fin de compte, pour ce pauvre homme, plus de sentiments que l'homme riche. Et là, il y a une leçon. Si on comprend les symboles de la parole de Dieu, les chiens sont l'image des païens. Toujours dans la Bible, j'espère. Et ce texte nous montre en fin de compte qu'il y a des païens qui parfois sont plus soucieux de faire du bien aux pauvres que les créatures de Dieu, enfin ses enfants. Et je crois qu'il faut quand même en tenir compte. Faisons attention, mes frères et sœurs, que si nous, Dieu nous a comblés de certaines richesses, de certains dons, de certaines capacités, de certaines vertus, etc., nous n'oublions pas que si Dieu nous donne quelque chose, c'est pour faire du bien aux autres. Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais enfin, ce qui devait arriver arriva, Lazare est mort. Mais Lazare, on peut se douter qu'il allait mourir, puisqu'il était malade. Hein? Mais le riche, vous voyez, il est mort aussi. Vous voyez, peut-être il mangeait trop, je ne sais pas. Bon. En tous les cas, il mangeait bien, mais il est mort quand même. Bon. La mort, vous savez, c'est quand même quelque chose, la mort. Est-ce que ça vous arrive d'y penser à la mort? Est-ce que ça vous arrive? Vous y pensez des fois? Vous avez eu peur de la mort parfois dans un accident, frôler un accident? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non? Ça peut arriver. Enfin, chacun a nos expériences. Enfin, Lazare est mort. Il ne nous est pas dit qu'il est enseveli. Le riche, lui, il est enseveli. Ben, il était riche, c'était normal qu'il ait un bel enterrement. Mais la mort, vous savez, il faut quand même se souvenir qu'on n'a aucun rendez-vous. Vous savez, dans la vie, on reçoit des rendez-vous pour une expertise, on reçoit un rendez-vous, etc. Souvent, on reçoit des rendez-vous. Mais la mort, elle n'envoie pas de rendez-vous. Il faut toujours être prêt, parce que notre vie ne nous appartient pas. Qu'on soit en forme, en très très bonne santé, ou qu'on soit malade, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on va mourir. Et ce n'est pas parce qu'on est en très bonne santé qu'on va vivre longtemps. Notre vie est entre les mains de Dieu. Je vous avais raconté cette histoire quand je suis rentré dans le ministère. J'ai fait une expérience particulière. C'était une des premières fois, j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, que j'allais prier dans un hôpital pour une personne de la famille de mon épouse qui était dans le coma. Elle était malade depuis des années, elle était dans le coma, et sa belle-fille m'a demandé d'aller prier pour elle. Elle me dit, est-ce que tu peux pas aller prier pour ma belle-mère, elle est en train de mourir. J'arrive à l'hôpital, d'Albi c'était, à l'hôpital d'Albi, il y avait déjà les bougies, le prêtre venait de passer lui faire l'extrême onction, ils avaient mis tous les habits, etc. Il y avait tous les gens en noir autour du cercueil, ils attendaient. Moi, pas du cercueil, du corps malade. Moi, je suis arrivé, vous savez, quand on est jeune, j'étais embarrassé un peu, mais il fallait que je prie. Alors, je suis rentré, j'ai dit, écoutez, on m'a demandé de venir prier pour Madame Dos Santos, je viens prier pour cette femme. Alors, ils m'ont regardé, tous comme ça, ils ont demandé qui j'étais. Alors, je me suis approché, j'ai posé les mains sur cette pauvre femme en train de mourir. Et je dis, voilà, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Enfin, j'ai dit, je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai prié au nom de Jésus, ça c'est sûr. Et je suis parti, avec un regard de haine sur ma vie. On le sent quand les gens me regardent avec haine. Je suis parti. Le lendemain, ma belle-sœur qui nous appelle, elle me dit, elle est sortie du coma. 3 jours après, elle sortait de l'hôpital. Cette femme, elle a vécu une vingtaine d'années. Mais dans l'année qui a suivi cette visite, tous ceux qui étaient autour du lit, ils sont morts. Tous. Je me suis dit, t'as bien prié. Et franchement, j'en ai parlé à mon pasteur. J'ai dit, écoutez, monsieur Bertalon, je viens d'apprendre une chose. Et il m'a dit, mais tu sais, Gérard, c'est pas parce qu'on est malade qu'on va mourir. Et ce n'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on va vivre. C'est Dieu qui nous reprend quand il veut. Quand il veut, qu'on soit malade ou en bonne santé, notre vie, c'est Dieu qui la reprend, sans prendre rendez-vous. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt, et c'est pour ça que Dieu veut que sa parole soit prêchée. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. En tous les cas, cet homme est mort. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur la personne qui est décédée? Et qu'est-ce qu'on n'entend pas? Vous avez déjà certainement été à des enterrements. Tout ce que les hommes sont capables de dire lorsque quelqu'un meurt. On pourrait en faire des commentaires. Ah, c'est qu'on ne comprend pas. Il venait juste de prendre la retraite. Oh, c'est terrible ça. Ah, c'était un homme riche. Hein? J'en connais qui vont être contents. Enfin, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, les commentaires que les hommes sont capables de faire lorsque quelqu'un est mort. Mais le commentaire des hommes, en fin de compte, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a le commentaire de Dieu qu'il faut retenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, les hommes, on a la capacité de réfléchir, d'analyser, de dire oui, c'est ceci, tiens, pourquoi il est mort, et satati, et tatala, et puis il avait qu'à pas t'en manger. Vous savez, il faisait la fête, cet homme. Mais le commentaire de Dieu, je vais vous le dire, le commentaire de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà le commentaire que nous devons tous retenir. C'est le seul commentaire qui compte. À quoi ça nous servirait? De gagner plus, de gagner toujours plus, et de gagner encore et encore davantage, et d'aller en enfer, et de perdre notre âme. Notre vie, qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle vaut, notre vie? Que l'on meure à 20 ans, que l'on meure à 40 ans, que l'on meure à 80, que l'on meure à 100 ans, aux yeux de l'éternité, est-ce qu'il y a vraiment une différence? En tous les cas, la vie, la première partie de la vie, c'est juste quelques décennies. Mais l'autre partie, celle qui commence après la mort, c'est une vie qui ne finira jamais, jamais et jamais. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a éclairés avec cette histoire pour nous parler un petit peu de l'au-delà. Il n'y a pas grand-chose, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on lit sur l'au-delà. Il y a bien des choses qui ne sont pas bibliques. À partir du moment où ce n'est pas dans la Bible, il ne faut pas quand même le prendre pour argent comptant. C'est peut-être des témoignages, bon, mais ce n'est pas quand même la parole de Dieu. Et avec des livres qui parlent trop de l'enfer, par exemple, sur des choses, c'est des choses qui vont plus troubler les gens que les amener à la réalité. Il vaut mieux leur faire lire cette histoire de Jésus. Donc, Lazare, il est là, dans la consolation éternelle, et l'autre, il est dans les tourments éternels. Beaucoup de gens croient qu'après la mort, eh bien, on peut se réincarner dans une autre vie sur la terre pour justement payer jusqu'à ce qu'on devienne parfait et qu'on arrive à, comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Dans le nirvana, voilà. Là, c'est fini, il n'y a plus besoin de se réincarner, on monte direction au ciel après une succession de vies sur la terre. Mais moi, ça, je ne l'ai pas lu dans la Bible. Dans la Bible, j'ai lu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est Dieu qui le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On entend de plus. Alors, il y a des gens qui croient dans des stupidités, mais on entend surtout des choses qui sont graves, c'est que de moins en moins, même dans les milieux religieux, et de plus en plus, on dit que l'enfer n'existe pas. Et ça, ça ne va pas plaire à Dieu dans nos églises si on accepte ces choses. Alors, on est là, les gens discutent, les gens disent « Oui, mais est-ce que vraiment l'enfer existe? Est-ce que vraiment un Dieu plein d'amour peut permettre de créer un enfer ?» Alors, c'est Jésus qui le dit. Et c'est Jésus qui en parle souvent. Alors, s'il faut refuser l'enseignement de Jésus sur ce point, alors on peut tout refuser. Que vous le vouliez ou non. Si on commence à dire « Jésus, là, c'est pas la vérité », eh bien, on va pouvoir tout enlever de la parole de Dieu. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Un conseil, peut-être qui rendra service à plusieurs qui écouteront cette prédication. Plutôt que de juger la parole de Dieu, il vaudrait mieux nous laisser juger par la parole de Dieu. Parce que je ne pense pas qu'il y a un seul homme sur la terre qui est habilité à juger la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est elle qui nous jugera au dernier jour. On va le lire ce verset. Et il faut le lire parce que moi je suis surpris de voir combien aujourd'hui, même dans les églises, de plus en plus de chrétiens jugent la parole de Dieu. Ils s'autorisent à la juger. Regardez Jean chapitre 12, verset 44. Jean chapitre 12, verset 44. C'est un problème ça. C'est un problème. Jean chapitre 12, verset 44, « Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au jour dernier. Et franchement, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette prédication, retenez-le bien, nous n'avons pas à juger la parole de Dieu, nous avons à nous laisser juger par la parole de Dieu. Mais de toute façon, ça c'est la perpétuation de la question du serpent dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit. Les hommes qui jugent la parole n'ont pas encore réalisé qu'ils ont cédé à cette ruse de l'ennemi. Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça? Est-ce que Jésus, dans cette histoire, veut bien vraiment parler de l'enfer? Oui. Mes frères et sœurs, les hommes qui n'auront pas voulu accepter la parole de Dieu seront jugés par la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, à la mort, le corps va au cimetière. Dieu l'avait dit dans Adam et Ève, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans l'Ecclésiaste, il est ajouté que la poussière retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Quand le Seigneur Jésus est mort sur le bois de la croix, son corps a été mis dans un tombeau, mais avant d'expirer, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc on voit, c'est la doctrine ça, voyez. Donc à la mort, le corps va à la poussière, à part le corps de Jésus qui est ressuscité bien sûr, mais l'âme, l'esprit retourne à Dieu. Et ça, ce sont des choses qu'il faut bien prendre au sérieux. Ce que Jésus veut expliquer dans cette histoire, c'est que lorsqu'un homme meurt, c'est ça qu'il veut dire. En vérité, il continue de vivre dans un endroit différent. Et il y a deux endroits différents. L'un vit parce qu'il a accepté le secours de Dieu. Il vit dans le salut éternel, dans la gloire éternelle, porté par les anges. Je pense qu'on peut, je ne sais pas si on peut en faire une doctrine qu'à la mort, parce que c'est le seul texte. Est-ce qu'à la mort de tous les chrétiens, ils sont portés par les anges dans le paradis? C'est fort, fort possible. D'accord? En fait, ça doit être une très belle expérience. En tous les cas, les chrétiens, quand ils meurent, ils sont sauvés pour l'éternité. Et comme dit l'apôtre Paul, ils seront toujours avec le Seigneur. Quelle grâce! Quand on chantait... dans le dernier cantique. Oui, mais la troisième strophe, là, quand il est dit « Les amis dont la mort nous coûte tant de larmes », je pensais à M. Christian, à Mme Sicre, à Mme Bussière, à M. Tzidikman, je pensais à tous ceux qui étaient là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui chantaient avec nous les mêmes cantiques et qui sont « Quelle grâce !» Bientôt, on sera tous ensemble. Et dans l'autre côté, quelle misère! Quel paradoxe, mes frères et sœurs! Vous vous rendez compte ce qu'il fait? Jésus donne une explication. Cet homme, il demande une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Pour moi, la goutte d'eau, c'est la plus petite chose qui existe. La plus petite chose qui existe. Et il n'y a pas droit. Et j'avais lu un commentateur du XVIIe siècle qui avait expliqué, avec ses textes et d'autres, que dans l'enfer, il n'y a pas d'eau. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a une chance de s'en sortir? La Bible dit que ce n'est pas possible. Qu'il y a un abîme impossible de franchir. Combien de temps ça va durer? Parce que c'est là que les gens disent, mais c'est pas possible. On en parlait ce matin, il y a des gens qui s'imaginent que les corps seront anéantis. Mais regardez, quand le diable a été jeté pendant 1000 ans dans les temps de feu, il est sorti pour séduire les nations, et il n'est pas mort. Vous comprenez, je veux dire, il n'est pas anéanti. C'est quelque chose d'éternel. La Bible, c'est Jésus qui parle d'un feu qui ne s'éteint point, d'un ver rongeur qui ne meurt point. Ils seront tourmentés au siècle des siècles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il faut prendre au sérieux cette affaire de l'éternité. Est-ce que vous le prenez au sérieux? Qui seront ces gens qui seront tourmentés éternellement? J'avais lu une histoire, un homme qui expliquait l'éternité, ça m'a plu l'histoire. Il disait que si un oiseau, vous allez rire ou pas rire, je ne sais pas, si un oiseau prenait un grain de sable et que ce grain de sable, il l'amène sur deux planètes et qu'il revienne et prenne un autre grain de sable et qu'il l'amène sur une planète et qu'il prenne tous les grains de sable de la Terre, après qu'il a enlevé tous les grains de sable de la terre, qu'il enlève toute la terre par des petits bouts, toute l'écorce terrestre, l'éternité ne ferait que commencer. Et c'est vrai, puisque ça n'a pas de fin. Et nous, on se demande, mais comment cela se fait-il si Dieu était juste? Écoutez-moi, dans cette parabole, cet homme, il dit certaines choses, mais il ne se plaint pas d'être en enfer parce qu'il sait que s'il y est, c'est bien sa faute. C'est pour ça qu'il a eu la bouche fermée. Mes frères et sœurs, ils seront tourmentés. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui n'est pas sauvé. Peut-être vous vous attendez, vous dites « Oh, j'ai le temps ». Ne vous amusez pas avec l'éternité. Ne vous amusez pas. Ces gens-là, qui sont-ils? Ces gens qui sont en enfer, combien de gens que vous avez connus sont en enfer? Qui sont-ils? Ce sont des gens qui n'ont pas pris au sérieux ces choses. Ils n'ont pas mis Dieu en premier dans leur vie. C'est ça le problème. Les gens, ils ne mettent pas Dieu dans leur vie. Vous avez vu ce que Jésus dit dans cette parabole? Il dit à Abraham, parce qu'il y a plein de mots forts dans cette parabole. Souviens-toi. 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 Et je crois que les morts en enfer ont de la mémoire et doivent se rappeler éternellement toutes les occasions qu'ils auront manquées. Et l'enfer, les tourments, ça doit être ça. Et dire que j'ai entendu l'évangile, et dire que je le savais, et je repoussais tout le temps. Souviens-toi, les morts, c'est clair, ils ont une mémoire. Et toute leur vie, ils doivent souffrir de ceux qui n'ont pas cédé à l'appel de la croix. Il va faire des choses, on va y revenir. J'en ai déjà parlé l'autre fois, je crois. Il va faire plusieurs choses, il va lever les yeux, il cherche la miséricorde, il prie et il essaie d'évangéliser. Mais cet homme sur la terre, il n'avait pas écouté Dieu. Il avait fait taire sa conscience. Peut-être, vous savez, il avait dit, « Oh, s'il y a un ciel, on verra bien. Et puis moi, je suis athée. » Les gens, ils disent, comment il règle le problème? « Ah, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu, moi, je suis athée. » « Pourquoi tu es athée ?»« Parce que les gens sont athées. » Vous n'avez pas vu? Demandez à quelqu'un vraiment pourquoi il est athée. Il va vous dire, ben, je ne sais pas, parce que les gens sont athées. Dieu dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Voilà ce que Dieu dit de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Peut-être qu'il a cru que c'était des blagues. Il y a des gens qui croient que c'est des blagues. Mais ce n'est pas une blague. C'est très sérieux. C'est la chose la plus sérieuse qui doit être réglée sur la terre. Est-ce qu'il a réalisé l'éternité, la valeur de son âme? Son corps, oui, s'en occupera. Son corps, mangeons ça, buvons, et faisons la fête, festoyons. Ça, il s'en est occupé de son corps. Mais je vous dis, les gens, ils vivent comme s'ils n'avaient pas d'âme. Et ça, c'est quand même terrible. Le problème de l'éternité, que c'est quand on y est, c'est qu'il y a un point de non-retour. Sur la terre, on a raté certaines choses. Et il y a un proverbe français qui dit « c'est jamais trop tard pour bien faire ». C'est valable peut-être sur les choses humaines. Mais pour les choses spirituelles, ce proverbe n'est pas vrai. Et je me suis posé la question en préparant cette prédication. Imaginons, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais enfin, imaginons que Dieu permette que pendant un quart d'heure, ce mauvais riche, Dieu l'envoie prêcher dans une église, tiens, dimanche à Saint-Agne. Qu'est-ce que vous pensez qu'il nous dirait, ce mauvais riche? Voyez ma prédication à côté, ça serait de la gnognotte. Je suis sûr que si quelqu'un revenait de l'enfer et venait dans une église prêcher l'évangile, je suis persuadé que nous serions tous à genoux en train de demander pardon à Dieu. Enfin, tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Si cet homme vous parlait de l'enfer, si cet homme venait vous parler de la misère, de la souffrance qu'il y a en enfer, je peux vous dire que tous les pécheurs se mettraient à genoux pour imploder, pour implorer pardon. Ils feraient comme l'apôtre Paul qui disait aux chrétiens de Corinthe qui n'allaient pas bien avec Dieu, « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Cet homme, il a presque le toupet de faire la leçon à Abraham. Vous avez vu? Ah si, moi si j'avais vu un mort ressuscité, c'est ce qu'il dit en fin de compte. Si j'avais fait peut-être une expérience vraiment bouleversante, si un mort ressuscité, les gens y croiraient d'ailleurs, si ça serait le cas. Et vous avez vu ce qu'il dit? Le Seigneur dit, la réponse est claire. S'ils n'écoutent pas la parole, ils n'écouteront personne. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, ils n'ont pas ressuscité. Jésus n'a pas ressuscité, tiens, en plus, un certain Lazare. Mais vous avez vu cette histoire, comment ça a fini? Ils ont voulu tuer le Seigneur pour commencer. Vous savez que c'est vrai. Ils ont voulu tuer le Seigneur Jésus. parce qu'il avait ressuscité Lazare. Et au chapitre 12, c'est plus terrible encore, ils veulent tuer Jésus et ils veulent tuer Lazare. Parce que la résurrection de Lazare confirmait le message de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus a ressuscité Lazare ou la fille de Naïm, ou le fils de la veuve de Naïm ou la petite fille de Jaïrus, ça confirmait la parole de Dieu. Et quand Jésus a ressuscité ces trois personnes, en fin de compte, ça les dérangeait. Parce que ça prouvait que la vie éternelle, elle existe. Vous vous rendez compte? Ça veut bien dire que quelle que soit l'expérience, vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, si je fais des expériences, je croirai. » Ils croient 5 minutes. Et on ne croit pas par l'expérience. La Bible dit qu'on croit par la parole. La foi, elle ne vient pas des expériences. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Béni soit Dieu pour les expériences. Et il faut prier. Et je crois que c'est bien de faire des expériences qui correspondent aux œuvres que Dieu a préparées. Parce que je crois que Dieu a des œuvres. Vous croyez? Il a préparé des œuvres. Il faut rentrer dans ces œuvres. Et il ne faut pas se priver de demander à Dieu de faire les expériences qu'il veut que l'on fasse. Mais moi, je vais vous dire, la chose la plus importante, ce n'est pas d'épiloguer sur les expériences. La plus importante chose, c'est de se mettre d'accord avec la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions, que nous comprenions. Cet homme, vous savez, moi ça m'a toujours frappé ça. Cet homme, il est dans le ciel, il lève les yeux. Je l'ai dit, mais c'est trop tard. Lever les yeux, ça veut dire que le salut, il vient pas des hommes. Le salut, il vient pas de la religion. Le salut, il vient pas des œuvres. Le salut, il vient pas des efforts. Le salut, il vient de Dieu. C'est ça, lever les yeux. L'expression « lever les yeux », ça veut dire que le secours me vient de Dieu. Le salut me vient de Dieu. Le pardon me vient de Dieu. C'est pas une religion qui pardonne. C'est pas un pasteur, un prêtre qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Et c'est pour ça, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, je vous en supplie, comme l'apôtre Paul pouvait le faire, levez ce soir les yeux vers le Seigneur, implorez sa miséricorde. Mais ça aussi, il l'a fait. Aie pitié, aie pitié, aie pitié de moi. Ça, c'est quelqu'un qui cherche la miséricorde. Parce qu'il n'y a que la miséricorde de Dieu qui puisse sauver un homme. Il ne dit pas, mais j'avais donné des miettes, justement, il n'a pas eu le toupet de le dire. Parce que ce n'est pas ça qui sauve un homme. Comme un condamné, vous savez, il y a des gens, ils sont condamnés à mort, ils écrivent, ils demandent grâce au président de la République. Ça existe encore, ça. Qu'un condamné à mort soit gracié, je vous assure, il le fait de tout son... Il réclame la grâce présidentielle. Elle existe dans certains pays. Et bon, mais c'est une bonne chose, quelque part. Mais elle existe surtout dans le royaume de Dieu, la grâce. La grâce divine. Et si ce soir vous n'êtes pas sauvé, il vous faut dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. La troisième chose, c'est ça, c'est de prier le ciel, comme le brigand sur la croix, crucifié à côté du Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, cet homme qui avait tant souffert et surtout qui avait fait tant souffrir les autres. Cet homme qui méritait l'enfer, entre guillemets. Cet homme, vous savez que cet homme, il a assisté vraiment de très 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 près à cette œuvre du calvaire. Et en préparant cette prédication cet après-midi, on sait tous que cet homme, il a fait une requête à Jésus. Souviens-toi de moi. Mais je me suis posé la question cet après-midi. Combien de temps a-t-il réfléchi avant de la poser? Peut-être qu'il a dû se dire, attends, mais je peux pas dire un truc pareil. C'est un criminel. C'est pas... Peut-être qu'il a attendu 10 minutes, une heure. Vous comprenez, je veux dire? Il était là, peut-être tourmenté. Je lui ai dit, je ne lui dis pas. Et il a fini, heureusement, par avoir l'intelligence de faire une prière. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce qu'il va me répondre? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Combien de temps Jésus a-t-il attendu? Je pense que Jésus ne l'a pas fait attendre. En plus, ça quand même s'appressait. Vous connaissez la réponse. Parce que la réponse de Jésus, qu'on le veuille ou non, c'est quand même... Dans le cadre du ciel, de l'enfer et du jugement, c'est la réponse de celui qui deviendra le juge de l'univers. Nous, on a peur des fois d'un jugement humain, mais n'oubliez pas que Jésus, il n'est pas que le sauveur du monde, ça sera le grand juge des juges, le juge de l'univers. Et là, lorsque Jésus ouvre la bouche, eh bien, comment on appelle ça? L'acquittement va tomber aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. La folie de la prédication. N'importe quel pécheur, ce soir, ou qui écoutera cette prédication, peut dire, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens de mes péchés. Levez les yeux, implorez la miséricorde. Priez, il faut le faire sur la terre. Il faut le faire maintenant. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie au Seigneur? On va fermer les yeux quelques instants. J'avais mis sur mes notes qu'on allait chanter le cantique de tel que je suis, et il nous l'a fait chanter, Nathanaël. Mais recueillons-nous. Mes frères et sœurs, mes amis, les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous savez où vous allez aller. Vous pouvez dire dans votre cœur, merci, croyez-moi. Vous savez ce qui vous attend, porté par les anges dans le sein d'Abraham, quelle grâce! Mais il n'y a peut-être dans ce lieu pas que des chrétiens. Il y a peut-être des chrétiens de nom. Il y a peut-être des chrétiens très légers avec la vie avec Dieu. N'y a-t-il pas quelqu'un ce soir qui veut dire, ce soir Jésus, je lève les yeux vers le ciel. Le salut, je l'attends de toi. Le pardon, je l'attends de toi. La miséricorde, je la recevrai de toi. La vie éternelle, je la recevrai de toi. J'arrête de juger la Bible. Je vais la laisser me juger. Et croyez-moi, vous ne serez pas perdant. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, Seigneur, oui, tel que je suis, comme ce brigand, et il était tel qu'il était, le pauvre homme, ce pauvre pécheur. Il a osé, vous vous rendez compte? Dieu a voulu qu'on sache cette merveilleuse histoire, il a osé. Moi, dans mon cœur, je pense, après avoir médité cet après-midi, qu'il a hésité. Il a osé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui ose dire, Jésus, aie pitié de moi. Sauve-moi. Je n'ai pas envie d'être confronté un jour au juge de l'univers. Moi, j'ai envie d'une seule chose, d'être confronté à un avocat. Il sera l'un ou l'autre. Jésus sera ou votre avocat. Jésus l'a dit, celui qui me confessera publiquement, je le défendrai devant le Père. Mais celui qui n'acceptera pas Jésus, vous aurez un juge devant vous. Alors qui ce soir veut donner sa vie? N'attendez pas, levez-vous, venez sur le devant. Vous qui avez peut-être le cœur qui battait un peu plus que tout à l'heure, vous qui sentez que c'est votre rendez-vous ce soir, venez sur le devant. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment, c'est une question de conviction, c'est une décision. La Bible dit que les lâches, ils n'hériteront pas le royaume. Les lâches, ce sont ceux qui n'arrivent pas à se décider pour le Seigneur. Ils croient bien, mais ils n'arrivent pas à prendre position pour la croix. Alors s'il y a quelqu'un qui veut, venez sur le devant. On priera pour vous, on va chanter un cantique. Je voudrais qu'on le chante avec beaucoup de cœur, mais que le pécheur ce soir, ou le chrétien rétrograde, ou celui qui n'a pas du tout l'assurance de son salut, ait la liberté de s'avancer pour faire la paix avec le Seigneur. Amen.